Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers. Proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Aujourd'hui, éloge du XVIIIe siècle.
Dans votre bureau, Philippe Solers, on en a déjà parlé, et vous l'avez cité dans un de vos textes, il y a le lingam, il y a cet énorme dé, il y a un éléphant qui a perdu une patte.
Il n'y a pas le pi chinois, parce que là, il est dans mon bureau personnel.
Il n'y a pas le pi, c'est vrai, dont vous parlez. Voilà. Derrière vous, une très belle photo de Picasso, manifestement sous une treille, sous une tonnelle,
torse nu,
comme souvent, en train de dessiner, en short très court. Et puis Voltaire à deux ou trois reprises, ou à des ouvrages de Voltaire. Nous n'avons pas parlé de Voltaire à propos du 18e, et vous parlez plus volontiers de Voltaire que de Rousseau, me semble-t-il.
Plus volontiers parce que Voltaire a eu une action suractive. Et Rousseau est admirable dans les rêveries des promeneurs solitaires ou les confessions. C'est-à-dire, c'est le contraire.
Voltaire, l'homme d'abord, vous admiriez l'homme, la vie qu'il a menée.
Oui, tout est extraordinaire chez Voltaire, sa liaison avec Madame du Châtelet, la façon dont il arrange son histoire d'être enceinte d'un poète roux de l'époque, comment il convainc le mari de reconnaître l'enfant. Je n'avais aucune raison de me brouiller avec une amie de 20 ans. Et ensuite, regardez enfin, ses rapports avec sa nièce, qui sont de Madame Denis, enfin non...
Pour le moins ambigu, on dirait aujourd'hui.
Bon, pas carrément incestueux. Mais, donc là, oui, bien sûr. Oui, oui. La question de la liberté, y compris dans ces choses-là au XVIIIe siècle. Enfin, il y a un roman de moi qui s'appelle Les Folies françaises, qui quand même est tout à fait explicite dans cette dimension des choses. Vous avez par exemple le cas le plus ahurissant. Alors remontons juste un peu. C'est Molière. Molière, je viens d'écrire sur lui. Parce qu'il y a une Pléiade qui vient de paraître, de volume, un album merveilleux où vous avez des gravures d'époque de Madeleine Béjart, fondatrice avec Molière de l'illustre théâtre. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Molière? Énorme, une aventure énorme. Protégé par Louis XIV, toujours. Molière n'était pas du tout un opposant à la monarchie. C'est ça qui gêne tout le monde. C'est un anarchiste couronné par le roi. Ce qui est assez étrange. Mais en tout cas, sa liaison avec sa propre fille, qui s'appelle Armande Béjart, qui l'aurait eu avec Madeleine Béjart, fait rêver beaucoup. Puisque le parrain de cet enfant, Louis, est parrainé par Louis XIV lui-même, baptême à Saint-Germain-l'Auxerrois. La rumeur montait, Racine l'a relayée. Comment ? Non seulement il a couché avec la mère, mais il épouse sa propre fille. Réponse du pouvoir. Voilà. Écoutez,
on peut citer Casanova.
Il faudrait interdire Molière parce que je sais pas, enfin, c'est terrible ce qu'il a fait. Ben, c'est pas bien du tout. Regardez l'époque où nous vivons. Il y a de la pédophilie partout, des incestes affreux.
Bon. Est-ce que je peux citer Casanova? Je n'ai jamais pu concevoir comment un père pouvait aimer tendrement sa charmante fille sans avoir du moins une fois
qu'on
couché avec
la
elle.
Qu'on lui coupe la tête. C'est qui Casanova?
Mais c'est de Casanova.
Il faut censurer ce passage.
Citez.
On l'a censuré au 19e. Il faut le censurer deux fois plus,
oui,
au 21e.
Mais il faut vous censurer aussi. Vous dites « formidable déclaration d'inceste revendiquée ». Vous admirez alors?
Je trouve que c'est très extraordinairement étonnant qu'il puisse dire ces choses-là.
Bon, donc
d'ailleurs,
Molière.
Dans ce Casanova l'admirable que j'ai écrit, j'ai essayé de suivre le fil rouge des mémoires. Parce que, en général, on les lit, on en lit un petit morceau. Mais en réalité, c'est extraordinairement composé. Et la composition roule précisément sur cette histoire d'inceste. Et c'est pour ça que c'est très scandaleux. Mais, encore une fois, c'est en librairie, vous pouvez le lire, vous ne le lisez pas. Donc, à ce moment-là, est-ce que je peux aller au journal de 20h parler de l'inceste de Molière Bien non, ça sera coupé. Vous savez comment ça se passe, hein, la télévision, par exemple. Le présentateur a peur qu'on lui vole la place et regarde, vous commencez une phrase, il regarde l'horloge. Et puis, voilà, passons à autre chose. Vite. Pour parler des Français, Voltaire a eu un jour cette définition. C'est un composé d'ignorance, de superstition, de bêtise, de cruauté et de plaisanterie. Qui ne voit qu'on pourrait désormais appliquer cette définition à l'humanité entière ? Oui, c'est bien ainsi que le monde va, à travers l'illettrisme galopant, la crédulité, l'oubli, la sottise, les massacres renouvelés, le divertissement agité. On se demande comment l'imposture de ce qu'on a appelé le voltairianisme, ce masque de tolérance sirupeuse, a pu être plaqué bourgeoisement sur le visage de ce géant lucide et mobile. Voltaire optimiste, quelle erreur ! Pessimiste ou nihiliste, mais pas davantage. Mais alors la vérité, et qu'on ne le lit pas.
Voltaire, encore deux, trois choses sur ses écrits maintenant, en dehors de la vie de l'homme.
Vous prenez Candide aujourd'hui, vous l'actualisez, ça n'a pas une ride. C'est absolument admirable. Les lettres de Voltaire, 13 volumes en Pléiade, vous en prenez une tous les matins, vous allez voir le bien que cela vous fait. Vous écoutez Nietzsche qui dit « c'est l'homme le plus intelligent qui ait vécu avant moi ». Oh ben c'est très très bien, c'est parfait. Vous écoutez Céline qui est « j'ai essayé de voltairiser le français ». Ah ben c'est très 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 bien. Eh bien, voilà. Il y a une lettre qui se termine comme ça. « On a voulu m'enterrer, mais j'ai évité. Bonsoir ».
Bien, ça fait une belle...
C'est les polémiques, vous comprenez, c'est-à-dire les pamphlets, la guerre constante de Voltaire. Imaginez Voltaire envoyant tous les jours pratiquement des lettres officielles, d'autres courriers qui sont plus secrets, etc. Bon, c'est inouï, c'est une activité constante qui prouve que, en effet, là, le projet, c'était bel et bien, en effet, d'obtenir le pouvoir philosophique, il ne s'en cache pas. Pour ça, il faut travailler les puissants, les despotes éclairés. Comment voulez-vous qu'on fasse aujourd'hui avec qui ?
Vous dites de jolies choses sur ces dernières années, dans Discours parfait, vous en souvenez, votre dernier ouvrage. Vous évoquez aussi un peu la solitude de cet homme, quand même, qui se retourne sur son passé, hein, non pas qu'il n'en soit pas... Et d'ailleurs, vous le titrez Mystérieux Voltaire, comme vous avez titré.
Oui.
Mystérieux Mozart.
Oui, aussi. Ils sont très mystérieux, ces gens-là. On ne comprend pas d'où vient leur énergie, sinon dans une intense concentration constante. Les derniers temps de Voltaire, oui, il se décrit toujours comme mourant. C'est un redoutable comédien aussi. Oui, par exemple, quand il écrit à Condorcet... Je vous aime et vous respecte en esprit et en vérité. Je me meurs, mais il n'y a pas grand mal. Ou alors à D'Alembert. Les charlatans en tout genre débiteront toujours leur orviétan, la poudre de perlimpinpin. Les sages, en petit nombre, s'en moqueront. Les fripons adroits feront leur fortune. Voilà, ça n'a pas une ride, ça, non ? On y est en plein. On brûlera de temps en temps un apôtre indiscret. Le monde ira comme il est toujours allé, mais conservez-moi votre amitié, mon très cher philosophe. Voilà, ça, le mot philosophe là, prend toute sa brillance, si je peux dire ça, son courage. Et alors, quand il dit « j'ai été longtemps sur le point de passer du règne animal au règne végétal. Mon vieux et faible corps a été tout près de faire pousser les herbes de mon cimetière. Sans cela, je vous aurais remercié plus tôt. » Ou encore, ça c'est d'Alembert, « je voulais courir à l'académie. Deux maladies cruelles me retiennent. Je vous recommande à vous et à mes respectables confrères les 24 lettres de l'alphabet. » Vous voyez, ça c'est la, comment dire en italien, c'est la sprezzatura, c'est intraduisible, c'est la désinvolture. C'est le monde est rempli d'automates qui ne méritent pas qu'on leur parle. Ceux qui se délectent dans les moiteurs de l'âme ne peuvent pas aimer cette vivacité décharnée. Oui, ça. Moins romantique que Voltaire. Oui. Il a 64 ans. Et c'est comme s'il en avait 25. Début. J'étais là de la vie oisive et turbulente de Paris. Des mauvais livres imprimés avec approbation et privilège du roi. Des cabales des gens de lettres. Des bassesses et du brigandage des misérables qui déshonoraient la littérature. Voilà, on peut difficilement être plus actuel. Voilà. Voltaire est le contraire du hargneux. Pas le moindre ressentiment, ce serait de mauvais goût. Le style ne le permet pas. Le contraire aussi de l'hypocrite. Voyez qui dit, voyez comme mon amour de l'humanité est grand, voyez comme je me drape dedans. Non. Honneur, grâce, disgrâce, voyage, guerre, bataille religieuse, médiocrité des confrères, qu'il appelle les excréments de la littérature. La petitesse des cours, Pompadour, après tout, n'est que la demoiselle Poisson. Bref, l'histoire, la trompeuse histoire qu'on nous somme de révérer, tout est retourné et renvoyé à l'inanité. Le régicide Damien, un pauvre cuistre, muni d'un canif et qui n'a fait qu'effleurer Louis XV. La condamnation de l'encyclopédie par le Parlement. Une affaire ridicule, à propos d'ailleurs d'un livre plein d'insuffisances. Une comédie où le Parlement s'est appuyé sur un charlatan appelé Abraham Chaumex. Abraham Chaumex, ci-devant vinaigrier, s'étant fait janséniste et convulsionnaire, et était alors l'oracle du Parlement. Homère Fleury le cita comme un père de l'Église. Chaumex a été depuis maître d'école à Moscou. Là encore, comme chez Montesquieu, le fond de l'affaire est que les hommes sont incurables et qu'on ne le sait pas vraiment si on s'en plaint ou si on ne transforme pas ce constat en gaieté. Si Voltaire dit « Comme je ne pouvais assurément ni rendre les hommes plus raisonnables, ni le Parlement moins pédant, ni les théologiens moins ridicules, je continuais à être heureux loin d'eux. Deux choses seulement comptent, le repos et la liberté. Pour cela, il faut l'indépendance financière. » Frédéric de Prusse se réconcilie rapidement avec Voltaire lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'est pas ruiné. Et une existence incontrôlable, toujours aux frontières. Voltaire écrit, on me demande par quel art je suis parvenu à vivre comme un fermier général. Il est bon de le dire, afin que mon exemple serve. J'ai vu tant de gens de lettres pauvres et méprisés que j'ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre. Tout cela donc pour en arriver à cet incroyable communiqué. J'entends parler beaucoup de liberté, mais je ne crois pas qu'il y ait en Europe un particulier qui s'en soit fait une comme la mienne. Suivra mon exemple qui voudra ou qui pourra.
Oh,
Sur le 18e encore, Philippe Soler, je l'ai dit, plusieurs de vos livres en parlent, mais donc dans Discours parfait, en quatrième de couverture, vous revenez effectivement sur tous ces portraits qui ont accompagné toute votre vie de lecteur, d'amateur d'art. Et vous dites que vous êtes au fond à l'opposé de la thèse de la fin de l'histoire. Vous n'êtes pas nostalgique ni critique. Ça, vous n'opposez pas systématiquement une époque que vous jugez vulgaire, moins intéressante à ce passé. Mais vous êtes quand même pour une renaissance à l'opposé de cette fin de l'histoire. Pouvez-vous nous développer un petit peu
cela ? Une renaissance à laquelle, très improbable, je dis, très très improbable.
Quand même.
Très improbable et à laquelle presque personne ne croit.
Et vous, vous y croyez ?
Eh bien oui, sans quoi j'écrirais pas ça.
Oui, mais vous ne développez pas beaucoup.
À l'opposé de toute vision apocalyptique ou de fin de l'histoire ou de fascination pour la terreur. Cet avenir, quoique hautement improbable, a d'ailleurs été affirmé. Voilà. Bon, je crois qu'il y a des époques d'obscurité, voire même d'obscurantisme. Et chaque fois, le décor change, les costumes changent, mais c'est toujours la même guerre qui se poursuit. Et parfois... contre ceux qui croient être de l'ancienne guerre, de la guerre d'avant, et qui brusquement servent d'alibi au nouveau pouvoir qui temporise et qui asphyxie le plus possible ceux qui pourraient leur être opposés. Voilà. Donc on a tout le monde sur le dos. On a ceux qui veulent interdire la lecture, comme du temps de Voltaire d'ailleurs. Et puis on a ceux qui s'en foutent, enfin pour qui ça n'a pas de sens. Ça fait beaucoup de monde. Quand Voltaire dit « il suffirait d'être 12 », on voit très bien à quoi il pense, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même avec 12 apôtres. Si on était 12, alors ce serait... Avec 12 apôtres, il s'est passé quelque chose. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, ce n'est pas le problème. Ça, il y a eu un rapport tout à coup de force considérable. Alors 12... Eh bien, si on est 12, va-t-on arriver à être 12? Oui, peut-être. C'est pas sûr.
On l'avait compris.
Dans l'algèbre et la géométrie de Fragonard, la résistance inutile apparaît comme la démonstration de sa pensée même, son traité de mécanique ondulatoire, son ellipse du quatrième degré, la présentation de la répétition infinie, son 8, son 9. Étant donné qu'il faut choisir, en général, entre l'utile et l'agréable, qu'est-ce qu'une résistance inutile ? Une résistance agréable. Appelons donc résistance ici le nœud physique qui permet de chauffer à blanc le tableau, de le mettre en état de bouillonnement continu. Entre les rideaux agités, le matelas renversé, l'oreiller bouffant comme un gros cul de canard, le traversin tordu délectable qui peut-être va se détendre d'un moment à l'autre comme un ressort, il est presque impossible au premier abord de déceler à qui appartiennent les bras, les bassins, les jambes. À quoi rime cette acrobatie ? Un viol, une lutte ? Leur simulacre plutôt. Un rapport de force, oui, mais sans doute pas celui qu'on croit. La main gauche de la femme, au visage plus extasié qu'horrifié, éloigne-t-elle ou attire-t-elle par les longs cheveux la tête de son partenaire, un homme, c'est vous qui le dites. Lui, si c'est lui, n'est plus qu'une figure, des mains, des jambes. Ses propres jambes ont tellement disparu que vous êtes forcé 3 secondes de lui prêter celle de sa conquête. Elle, crucifiée par la situation, n'en a pas moins ce pied léger du premier plan, ce pied de course et de soutien, de bon et d'accord. Elle prend la mèche de cheveux, il lui saisit le poignet. Le tableau est fait à la force tournante du poignet. Sa main gauche, à lui, est exacte, glissée au point résistant. Un genou, une cuisse font surgir les fesses qu'on ne montre pas. La suggestion poussée à bout est la nervure de l'ensemble. Le rendez-vous est gagné sous toutes ses formes. La torsion hystérique est parcourue, libérée dans le jaune et le blanc. Glorieux.
C'est un plaisir de décrire des tableaux qu'on aime.
Mais c'est-à-dire que il faut savoir les parler. Pour savoir les parler, parce que l'œil doit écouter. Sinon, on croit que c'est une image et un tableau n'est jamais une image. Un tableau est plein de chuchotements, plein de gros mots aussi. Picasso disait ça, n'est-ce pas, qu'il a, sa peinture. Hein, voilà. Il faut les entendre, les tableaux. Il faut, je crois, enfin, moi en tout cas, sans quoi vous pouvez faire de l'histoire d'art, dire que c'est fragonard, oh, c'est très charmant, c'est, finalement c'est léger. Oh, pas du tout. Oh, pas du tout. C'est extraordinairement profond parce que c'est quelqu'un qui a observé de près la façon dont il s'impliquait lui-même dans ces histoires de lit. Garder les yeux ouverts ou la mémoire active quand on est dans un lit en train de faire ce genre de choses, c'est rare. La plupart des protagonistes ne demande qu'à oublier, à état de lumière, à oublier. Le peintre n'oublie pas, le peintre travaille tout le temps. Regardez Picasso, si une femme a 3 yeux, ou plus, c'est parce qu'on les a vus de très près. Enfin, on ne ferme pas les yeux pendant l'action. Voilà. Alors évidemment, ça peut choquer quand on croit que l'acte amoureux doit être un oubli de soi et une effusion dans une fusion illusoire. C'est un acte qui réclame, je crois, beaucoup de savoir et probablement même de virtuosité. C'est rare. Les peintres le prouvent. Ils savent exactement être là où il faut pour parler ce qui est en train de se faire. De toute façon, les histoires érotiques, comme on dit, amoureuses, ne sont confirmables que par le dire qui s'ensuit. S'il n'y a pas le dire, ça prouve qu'il y a énormément d'actes physiques dans les métropoles. S'il y avait quelque chose qui pouvait se dire, ça se saurait. Ça se saurait au matin, je ne sais pas. On pourrait interroger les gens. Et les écrivains qui arrivent à dire sont rares aussi. Les peintres sont là, tout à fait, tout à fait.
Et pour vous, Fragonard l'est encore plus que d'autres ?
Ah oui, Fragonard est un révolutionnaire qui aurait dû être liquidé au moment de la Révolution. Il a dû protéger. Bon, il est mort en mangeant une glace au Grand Véfour. Mais on l'avait quand même chambré, c'est fini, ça. C'est là, bateau Fragonard circulait, il n'y a plus rien à voir. C'est David, attention. Il faut faire de la peinture morale, patriotique et glacée. Les baigneuses de Fragonard sont immortelles. Vous pouvez revoir ce tableau dans les baigneuses, grand thème. Parce que le nu, vous comprenez, c'est la preuve. Georges Braque, par exemple, était incapable de faire un dû, alors que Picasso les a multipliés. Il a fait de lourds oiseaux qui n'ont rien d'érotique. Savoir faire le nu, en mots ou en peinture, c'est absolument capital. Hein,
on dirait que vous faites le lien avec leur
regardez
propre...
Regardez ça, c'est 82 millions d'euros, tout récemment chez Christie's à New York. C'est un nu de Picasso. Avec. Si vous regardez le tableau, vous verrez que la femme qui est allongée en bas, en forme de 8, justement, le 8, c'est une sorte de signe d'infini, elle a les yeux fermés, tandis que la sculpture qui est sur son socle, la sculpture qui est derrière, c'est elle aussi, mais enfin, a les yeux ouverts. Hein, donc, il faut regarder attentivement, vivre dans les tableaux.
C'est curieux, vous faites le lien avec la biographie de cette peintre, au fond. Vous décrivez des hommes qui ont vécu intensément, comme Picasso, comme Fragonard, qui ont eu des vies très,
leur biographie, très libres. Oui, pas forcément de façon visible. Fragonard et Mademoiselle Guimard, c'est toute une aventure. Il a décoré son hôtel particulier. Je me rappelle que Pierre Rosenberg était très, très refroidi parce que je disais que Mademoiselle Guimard, qui était une prostituée tout à fait classique, danseuse à l'opéra, et assez facile d'accès, n'est-ce pas? Et quand il a décoré son hôtel particulier. Et j'ai dit, évidemment, c'est le peintre et son modèle, mais enfin, l'a payé en nature. Et Rosenberg dit, il n'y a aucune preuve, évidemment. Fragonard n'est pas sorti pour aller au commissariat, faire une main courante pour dire « J'ai fait l'amour avec Mlle Guimard de 5h à 7h ». Non, elles ne l'ont plus. Enfin, ça me paraît étrange, cette façon de ne pas comprendre ce qui se passe dans la vie, parce que l'œuvre est continue. Ce qu'il a fait avec Mlle Guimard, il l'a fait sur les murs de son hôtel. Voilà.
Siècle encore, Buffon, dont vous parlez, alors là, ça va nous rapprocher peut-être du rapport à la science. Vous avez mentionné Diderot déjà tout à l'heure, et Montesquieu aussi d'ailleurs, regard sur la société. Mais si l'on parle de Buffon, vous faites des pages très très drôles, je crois que c'est pas dans Discours parfait,
il me semble, oui.
Absolument. Très drôle sur les mœurs des animaux. C'est vrai qu'elles sont vraiment franchement comiques ces pages-là, et même assez érotiques pour tout dire. Sur les mœurs sexuelles des animaux, les éléphants, les coqs, l'oiseau-mouche.
Mais alors, c'est quoi, Buffon?
Tout le monde connaît, mais est-ce qu'on le lit?
Mais non, mais vous savez que je n'arrête pas de répéter ça. Tout le monde connaît tout, mais personne ne dit rien. Donc,
d'accord.
En fait, tout le monde fait semblant de connaître. Bon. Alors, je fais... Amusez-vous, faites l'expérience en présence de quelques amis. Voilà. Vous prenez un livre, vous ne révélez ni son titre, ni le nom de l'auteur, et vous proposez seulement une ou deux minutes de lecture. Et vous lisez à haute voix. Et il s'agit d'éléphants. Lorsque les femelles entrent en chaleur, la troupe se sépare par couple que le désir avait formé d'avance. Ils se prennent par choix, se dérobent, et dans leur marche, l'amour paraît les précéder et la pudeur les suivre. Car le mystère accompagne leur plaisir. On ne les a jamais vus s'accoupler. Ils craignent surtout le regard de leurs semblables et connaissent peut-être mieux que nous cette volupté de jouir dans le silence et de ne s'occuper que de l'objet aimé. Ils cherchent les bois les plus épais, ils gagnent des solitudes les plus profondes pour se livrer sans témoin, sans trouble et sans réserve à toutes les impulsions de la nature. Ça, c'est Monsieur de Buffon. Alors, vos amis sont perplexes, ils hésitent. De qui s'agit-il? Pourquoi ces précisions sexuelles entre les... Que faut-il entendre exactement par impulsion de la nature? Hein, voilà. Alors, vous ne leur laissez pas le temps. Vous venez de prendre les éléphants, alors vous allez sur le chat. Tiens, voilà le chat. Il est très porté à l'amour. Et ce qui est rare chez les animaux, la femelle paraît être plus ardente que le mâle. Elle l'invite, elle le cherche, elle l'appelle, elle l'annonce par de hauts cris la fureur de ses désirs, ou plutôt l'excès de ses besoins. C'est comme c'est beau ça. La fureur de ses désirs, ou plutôt l'excès de ses besoins, en effet. Et lorsque le mâle la fuit ou la dédaigne, elle le poursuit, le mord et le force, pour ainsi dire, à la satisfaire. Qui peut écrire des choses pareilles? Mais c'est pas croyable. Et un bon coq, tenez, vous voulez un bon coq? En voilà. Et celui qui a du feu dans les yeux, de la fierté dans la démarche, de la liberté dans ses mouvements et toutes les proportions qui annoncent la force. Un coq ainsi fait inspirera de l'amour. Bon, ça, c'est épouvantable ce que je vous dis là, mais c'est vraiment insupportable. Un coq ainsi fait inspirera de l'amour à un grand nombre de poules. Si on veut le ménager, on ne lui en laissera que 12 ou 15, écoutez. Hein, bon. Et alors, l'oiseau-mouche, vous voulez un peu d'oiseau-mouche? Oh, on ne s'en lasse pas, Buffon, quel grand écrivain. L'émeraude, le rubis, la topaze brillent sur ses habits. Il ne les souille jamais de la poussière de la terre. Et dans sa vie, toute aérienne, on le voit à peine toucher le gazon par instant. Il est toujours en l'air, volant de fleurs en fleurs, il a leur fraîcheur comme il a leur éclat, il vit de leur nectar et n'habite que les climats où sans cesse elle se renouvelle. Moi, ça me plaît bien, quoi. Vous voyez, les mots sont à leur place et c'est extrêmement précis. Buffon a toujours été admiré par Rousseau, qui a dit que c'était la plus belle plume de son siècle, par Diderot, par Sade, par Chateaubriand, par Winckelmann, par Balzac, beaucoup, par Flaubert. J'admire Monsieur de Buffon, dit Flaubert, mettant des manchettes pour écrire. Ce luxe est un symbole. Entre parenthèses, c'est la même chose pour Joseph Haydn, qui s'habillait très, très, très bien pour écrire. Lautréamont, très important. Proust, Ponge, qui voit en lui un des plus grands poètes en prose de notre littérature. Et il fait irrésistiblement penser à Joseph Haydn, oui. Hérault dit qu'à 78 ans, il en paraît 60, et que malgré les souffrances inouïes de sa maladie, il reste beau et calme, citation, frais comme un enfant. Hérault, lui, a de Seychelles, à 26 ans, c'est un ambitieux et un libertin de grande envergure. Il se moque un peu de la vanité de Buffon, s'en sert pour sa propre publicité, mais l'admire aussi sincèrement. Étrange coïncidence, le révolutionnaire Hérault de Seychelles est guillotiné à 35 ans avec Danton en 1794, un autre condamné de 30 ans à la même époque, le propre fils de l'auteur de l'Histoire naturelle, s'avance devant le peuple avant de perdre sa tête et dit « Citoyen, je m'appelle Buffon ». Ainsi disparaît la douceur de vivre.
C'est donc la douceur de vivre, le XVIIIe siècle, pour vous, qui le traverse.
La formule douceur de vivre, qui n'a pas connu, l'ancien régime n'a pas connu la douceur de vivre, n'est pas de moi, c'est de Talleyrand, hein, n'a pas été n'importe qui dans tous les imbroglios de cette histoire. Je crois qu'on peut suivre cet expert.
Thank you.
Comment visitez-vous le XVIIIe siècle, presque quotidiennement? En écoutant de la musique, bien sûr. Est-ce que vous voyagez pour aller voir un tableau?
La chance qu'on a, c'est de... Quand on passe 40 ans à Venise, encore une fois, Tiepolo ferme. Voilà, après, c'est le 19e, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à entendre. La musique est morte. La peinture est morte aussi, et il faut vraiment que des gens repartent à l'offensive. Bon, bien sûr que c'est de la musique. Encore une fois, il y a des heures. Immédiatement. Si j'écoute...
Immédiatement, vous rentrez chez vous, ces musiques? C'est ça que vous alliez dire?
Comment?
Vous venez dire immédiatement que vous avez fait un geste?
Oui, si j'appuie sur les suites anglaises ou françaises de Bach, bon, c'est... Immédiatement, je sens que quelque chose qui n'est pas d'époque, qui est essentiellement dans le temps lui-même, est en train de s'adresser à moi. C'est pour ça que Gould a supprimé les concerts. Vous l'avez vu avec sa petite chaise, les mains, voilà, pour être tout contre le clavier. Deux siècles après la mort du vieux Bach, pas si vieux, à 65 ans, un pianiste canadien génial, Glenn Gould, l'écoute de plus en plus près et en profondeur, le crible, atteint le cœur de son instrument, conçoit son studio d'enregistrement comme, dit-il, une sécurité quasi utérine, s'enferme, renonce à toute activité publique, mise tout sur la prise de son et le mixage, la ponction au centième de seconde, se rapproche de plus en plus du grain pur avec ses deux mains cerveaux en oiseau. C'est la perfection. À l'entendre, dans certains moments lents, avant qu'il se lance dans l'espace à pic, il est évident qu'il prie, lui aussi. Qui ? Quoi ? Son corps d'univers libre à travers les notes, les sens bondissent dans la pensée, dit Maître Eckhart, et c'est vrai. Cela n'est jamais dit. Mais le petit Bach a été un enfant particulièrement joueur, espiègle, effronté, fugueur. En dehors de sa passion précoce pour la musique et de son sérieux aux offices, on l'a beaucoup vu courir dans la campagne aux environs d'Eisenach. Qui ne l'a pas observé, démarré, détalé, s'envoler, s'arrêter brusquement, repartir comme un dératé, s'allonger les bras en croix dans l'herbe, se relever, courir à perdre haleine, puis s'asseoir et méditer longuement, avant de reprendre ses virevoltes qui ont tant inquiété sa mère, ne peut rien comprendre à sa façon de tempérer, ou plus exactement de tamper. Régler la tempête et cette atroce histoire de crucifixion, ressusciter les spirales, voilà le voyage. Et c'est bien ce qui assombrit le visage du roi de Prusse. Lorsqu'il le reçoit, la joie étourdissante et enfantine, là, du vieux Bach, sur laquelle le temps n'a aucune prise, sa prière ininterrompue, son mouvement d'adoration perpétuelle, bref, son amour.
J'ai envie, dans la foulée, de vous demander, qu'est-ce qui fait à vos yeux un grand ou une grande interprète? Glenn Gould, Martha Argerich, aujourd'hui Cecilia Bartoli, je sais que vous l'admirez beaucoup aussi.
C'est ce qu'on pourrait appeler, mais le mot n'a plus de sens aujourd'hui, mais franchement c'est Dieu. C'est divin. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans, dans ce mot, lieu et bord, bon, plus personne... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est absolument transcendant. Si vous dites ça à Martha Argerich, elle vous regardera avec des grands yeux perdus. Il n'est pas question de ça, il est question d'être là et de jouer les notes. De toute façon, vous ne pouvez jamais faire dire à un musicien de quoi il est question dans ce qu'il joue. C'est pour ça que je voudrais enfermer Argerich pour l'obliger petit à petit à dire des choses. Ils sont là, c'est déjà suffisamment compliqué de rassembler tout son corps au bout des doigts et de respirer comme il faut en interprétant. Donc je le dis à plusieurs reprises, c'est de la prière, mais de la prière pas au sens conventionnel de récitation comme ça, vide, qu'on apprend. La musique est une prière. If music is the food of love, c'est Shakespeare, c'est la nourriture de l'amour. Bon, la musique étant la nourriture de l'amour, on peut dire aussi que ce sont des êtres humains qui s'y entendent parfaitement en amour. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'utilisation du corps pour faire ce qu'on appelle l'amour. Encore une fois, bon, si ce terme avait un sens, c'est la vie divine.
Cécilia Bartoli ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Sur scène, c'est...
Bien sûr, si vous dites à Cécilia qu'elle porte Dieu, elle vous regardera, elle aussi, en souriant gentiment. Bon. Il faut prendre d'autres formules et comprendre que c'est l'identification du corps tout entier aux mains, dans le piano, à la voix, dans le cas de Bartoli, tout le corps passe au-delà de lui-même. Et alors bon, ça aussi, si je vous dis que c'est les anges, que c'est angélique, ça, c'est vrai. Mais enfin, ça veut plus rien dire pour personne. Et pourtant, c'est vrai.
Et vous ne dites pas qu'il donne. Cécilia Bartoli, elle donne le sentiment d'offrir tout ce qu'elle a.
Elle offre tout à l'espace et au temps. Au public, non. Vous savez ce que disait Gould, n'est-ce pas ? Je hais le public. Pas le public pris individuellement. Je hais le public à l'instinct de meute. C'est l'instinct de foule. C'est pour ça que aussi bien Martha Argerich, aussi bien Gould, on se retire de l'espace ensembliste social. Pour Cécilia, c'est autre chose. Elle a besoin, parce qu'en plus, c'est une très, très extraordinaire comédienne. Elle se sert de son corps tout entier. Elle va, elle vient, elle lance son orchestre, on dirait une soliste de jazz, elle tape du pied. Et donc, elle est absolument extraordinaire. Le mouvement, tout à coup, c'est la berceuse, la reine d'elle, ou alors à toute allure, dans Vivaldi. Bon, peu importe. Elle a besoin d'un écrin spatial. Donc, de petits théâtres, c'est pas la peine que ce soit très, très, très impressionnant. Elle a refusé les tas de propositions pour chanter, je sais pas, aux États-Unis ou ailleurs dans les grands. Ou alors au Stade de France, si vous voulez, c'est-à-dire comme Johnny Hallyday. C'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Il s'agit de faire résonner quelque chose de très, très subtil pour des amateurs, s'il y en a encore. Et voilà, moi je l'ai vu chanter dans les théâtres, donc tout le théâtre est enlevé. Les gens ne sont plus là, ils font semblant d'être là, et elle est seule avec l'espace, voilà, mais le temps. Avec le 18e siècle, je pense que l'idée constante dans les romans que j'ai écrits, c'est quand même la formation de sociétés secrètes ou, disons, discrètes, où vont vivre en état d'expérimentation un certain nombre de personnages. Ceci me paraît curieux, et en tout cas c'est répété, comme art d'une contre-société clandestine qui s'organise pour échapper à la pression sociale. Alors là, les narrateurs sont toujours un peu les mêmes, mais pas les mêmes du tout. Ils sont dans d'autres situations, ils ont parfois des noms. Par exemple, Simon Rouvray dans le livre de Froissart, chroniqueur, Saint-Simon Rouvray. Bon. Et ils sont dans des situations, c'est soit le trafic d'art, c'est soit une note sur l'attentat du pape. Enfin, et chaque fois, vous avez la formation, que ce soit avec des personnages singuliers de femmes, ou bien dans le cœur absolu, c'est là qu'est la forme la plus déclarative. Il y a même la déclaration du cœur absolu. C'est sous forme souvent de contrat. Par exemple, Lysidore, c'est un contrat avec un personnage qui s'appelle Reine de l'Aume. Le narrateur est censé écrire des choses qu'il lui fera lire. Elle achète le manuscrit. Il s'ensuit un certain nombre d'éléments. De même, vous avez la constitution d'une société qui s'appelle la Société du cœur absolu, etc. Alors, vous pouvez suivre à partir de là les identités rapprochées multiples, les IRM des narrateurs. C'est ça qui m'intéresse. Et aussi un certain nombre de personnages féminins qui parfois peuvent se rassembler dans une sorte de constellation où chacune peut éclairer les autres. L'exemple le plus frappant qui me vient, c'est le personnage qui s'appelle France, qui est la fille du narrateur dans Les Folies françaises. Celle qui s'appelle Luz, L-U-Z, qui est une astrophysicienne qui est dans La Fête à Venise. Celle qui s'appelle Maude et qui est dans L'Étoile des Amants. Et celle qui s'appelle Viva, qui est dans Les Voyageurs du Temps. Ce sont des personnages différents, mais finalement très proches. On a l'impression qu'elles se métamorphosent au cours de la narration. Et dans le prochain livre que je suis en train d'écrire, il y aura un nouveau personnage qui sera très proche de France, Luz, Maud et Viva, c'est-à-dire encore un autre personnage dans d'autres situations. Donc les narrateurs ne sont pas fixés dans des identités limitées. Ça, c'est très 18e, entre guillemets, hein, ça. Voilà. Ils peuvent voyager sous d'autres noms et en faisant d'autres expériences. Et d'autre part, les personnages de femmes ont un rôle, si je peux dire, paritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Là encore, c'est la guerre contre toute séparation. Si vous prenez Watteau, là, qu'est-ce qu'il a fait ? Avant lui, ce sont des tableaux mythologiques. Il faut un sujet mythologique. C'est un peu comme Mozart faisant les Noces de Figaro. Tout à coup, la salle est sur la scène. Watteau a fait quoi ? De façon extraordinairement fine, élégante et révolutionnaire. Il n'y a plus de mythologie. Et les couples masculins et féminins sont très proches, différents certes, mais pas vraiment séparés. Embarquement pour Cythère vous le prouve une fois, 10 fois, 15 fois. Regardez bien Watteau, les hommes et les femmes sont très, 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 très peu distincts tout en étant différents, bien sûr. C'est ça qui est un secret perdu dans la liberté humaine, je crois.
Sei 43
ora sì che io son contento sembra fatto il ver per me sembra fatto il ver per me guardo un po' mio caro figaro guardo un po' mio caro figaro guardo un po' guardo un po' guardati sul mio cappello
36 43
guarda un po' mio caro figaro guarda adesso il mio cappello il mio cappello il mio cappello
sì mio cuore ora è più bello sembra fatto in ver per te sembra fatto in ver per te
guarda un po'
sì mio cuore
guarda un po'
ora è più bello
ora sì che io son contento
Ora sì, io sono contento.
stessa si fe. E Susanna, la stessa si fe. Susanna, la stessa. E Susanna, la stessa si fe. Stessa si fe.
Vos personnages, en fait, dans les romans, continuent un peu votre pensée critique sur l'art, sur la littérature, sur la musique, par d'autres moyens.
C'est ça.
C'est une manière de poursuivre votre travail.
C'est-à-dire plus exactement, ce sont les romans qui me permettent d'aller plus loin dans les études critiques sur... voilà, il faut commencer par les romans. Mm-hmm. Si je n'écrivais pas ces romans-là, qui sont en général critiqués, parce que ce n'est pas des vrais romans qui veulent raconter une histoire... Je ne suis pas le modèle anglo-saxon, je ne pense pas à un film qui va être tiré du roman, Ranani, Ranel, enfin tout ça, bon, non, c'est pas des vrais romans, il y a trop de citations, etc. Bon, non. Si je n'écrivais pas ces romans-là, je ne pourrais pas me retourner vers ma bibliothèque, ma discothèque, ma vidéo, pour écrire, tiens, voilà, quelqu'un qui va m'aider à continuer. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est parce qu'il y a cette pratique-là qu'il y a ces essais-là. Si j'étais un essayiste qui se mêlerait d'écrire des romans, franchement, ça ne marcherait pas. Mais comme la séparation règne dans la société où nous sommes, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas écrire des romans, écrire des essais sur la peinture, la musique, là. On ne peut pas écrire dans les journaux, on ne peut pas parler à la radio, on ne peut pas passer à la télévision. Il faut quand même choisir, vous n'allez pas vous dire que vous...
Et on ne peut pas aux yeux des autres, quoi.
Ça n'est pas normal. Mmh. Restez un peu tranquille. Enfin, c'est autrement dit, ayez de la religion sociale, hein, c'est ça. Eh bien, je ne l'ai pas. Je suis tout à fait... apte à me déplacer dans n'importe quel système de coordonnées.
Parlons de méthode.
Mais le principal système de coordonnées, c'est l'aventure romanesque de la vie elle-même. Et la nature en même temps.
Il y a des moments, parlons de méthode, simplement de méthode d'écrivain, ou de méthode intellectuelle, comme on veut, mais il y a des moments où vous avez plus envie d'écrire un roman, ou des lieux peut-être.
C'est uniquement parce que j'ai chaque fois un roman en cours que tout le reste s'ensuit. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, je suis amené à considérer ma vie elle-même, mes rapports avec la perception, je parle, les fleurs, si vous voulez. Je suis amené à considérer que ma vie elle-même est romanesque. Bon, alors évidemment, elle n'est pas filmable du dehors. C'est pour ça que ces romans sont des romans tout à fait à l'opposé du marché du roman. De la marchandise du roman. Et donc, c'est autre chose.
Vous en concevez un peu de regret, un peu de mécontentement, qu'on vous empêche, justement, comme vous le dites, de faire ce que vous voulez ?
Non, pas du tout. Personne ne m'empêche.
Non, mais enfin, qu'on vous le dénie un peu, comme vous l'avez dit.
Mais non, je trouve ça normal, puisque c'est la guerre. Comme je fais le contraire, il est bien normal que ça ne soit pas célébré comme étant ce qu'il faut faire. Maintenant, comme j'en suis absolument persuadé, il faut que l'adversaire travaille pour vous. C'est-à-dire qu'il soit obligé de considérer que vous existez quand même, même si vous faites exactement le contraire de ce qu'il prône.
Ce qui nous ramène au 18e d'une certaine façon.
Voilà, c'est-à-dire aussi à une liberté par rapport à l'argent. Car c'est quand même le seul problème aujourd'hui qui préoccupe tout le monde. Vous avez 750 milliards de dettes en euros à rembourser. Est-ce que ça vous soucie ? Et la retraite, et patati, et patata, voilà. Il n'y a que ça. Le cinéma, c'est de l'argent. Regardez les romanciers, ils écrivent pour le cinéma. C'est leur visée. Et en général, ils veulent s'en mêler eux-mêmes, et le résultat est concernant. Parce que c'est un métier, on ne peut pas se déclarer cinéaste. C'est comme si je vous dis, venez voir ma prochaine exposition de peinture ou venez écouter mon concert de Mozart. C'est pas vrai. En revanche, sur des questions de mise en mots et de la façon de vivre avec ce style de vie, de respiration, bien c'est un art aussi. Et tout simplement un art de vivre.
Thank you.
Anne était avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son, Tanguy Le Corneau. Mixage, Marie-Thérèse Ferrand. Samedi prochain, nous retrouverons Philippe Solers, voyageur de son temps.